Vous écoutez
RMC.
Avec Walid Acherchour, avec Maxime Chanou, avec vous au 32-16 pour revenir sur cette deuxième journée de Ligue 1. La défaite de Lens, mais la victoire donc de Strasbourg 2-1. Laurent est avec nous, il était au stade de la Méno. Salut Laurent.
Salut, salut à tous.
Salut Laurent.
Laurent, merci d'avoir patienté. Bon, cette équipe de Strasbourg nous avait grandement inquiétés. On était au Vélodrome avec Walid il y a une semaine. Et bon, on a vu la différence. Et pourtant, il manque encore pas mal de joueurs, pas mal de recrues qui n'étaient pas titulaires. On sait que l'effectif va encore bouger. Mais on a retrouvé un Racing Club de Strasbourg enthousiasmant. T'es d'accord avec ça?
Franchement, très agréablement surpris de l'entame du match. Parce que honnêtement, en allant au stade, ça fait dire avec mes copains, on était très inquiets, mais vraiment très inquiets. Pour rien vous cacher, moi, pour moi, on repartait avec une lourde défaite de la Méno. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la semaine. Alors évidemment, l'apport de Ortega, je trouve qu'il a, il a montré des choses intéressantes.
Ortega, non, c'est pas Panicelli, non?
C'est son petit frère. Ortega, c'est le petit frère de Panicelli.
Ah d'accord, c'est pas Panicelli.
On posera la question quand Panicelli revient, hein, parce que les deux ensemble.
Non, le problème, c'est que Ortega et Panicelli, ça va être dur de les faire jouer ensemble.
C'est vraiment le même profil. Hein.
Après, j'ai trouvé Reynaud très intéressant. Nanasi aussi très percutant.
Très bien, ouais, dans les appels.
Ouais, franchement, je trouve que la première mi-temps, elle est vraiment hyper cohérente, hyper intéressante, très rassurante. Et le seul point noir de cette mi-temps, c'est finalement ce pénalty concédé, quoi. Alors, j'ai pas revu des images, mais apparemment, il semblerait être...
Ouais, c'est clair.
Il y a faute de Mitchell.
Il le touche bien.
Par contre, j'aurais pu avoir pénalty sur Nanasi.
Ouais, alors moi, je suis de l'autre côté du stade. Quand il y a la faute sur Nanasi, de très loin, on voit quand même un gros contact, mais on est très loin. Après,
elle est comment d'ailleurs cette nouvelle Méno? Tu nous parles de là où tu es dans le stade et dans quelle tribune? Elle est comment cette nouvelle Méno, Laurent?
Je suis dans le COP. Alors, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis la saison dernière, parce que la nouvelle tribune, on l'avait déjà et tout. Mais ils sont repeints dans le COP. C'est tout propre, tout gris. Ça fait neuf, ça fait beau. Je pense qu'il y a toujours les trous dans la toiture, mais sinon, on va dire que ça sent le propre. Maintenant, on a redoublé quasiment tout notre effectif. Donc, l'effectif aussi, il est tout neuf, il est tout propre. Voilà, je pense que...
Mais vous allez perdre Guéladoué, Laurent. Hein, le Guéladoué qui devrait partir à Leverkusen.
Ouais, et puis je ne fais pas non plus beaucoup de doutes sur le sort de Couré qu'on ne voit pas dans l'équipe. Donc, à mon avis, il va peut-être aussi nous quitter.
En tout cas, vous avez récupéré encore une fois un très bon gardien. On parle de la multipropriété, mais...
Ah oui, il faut qu'on en parle de Philippe Jorgensen.
Après Petrovic, après Mike Penders, honnêtement, Jorgensen...
Non, mais on parle d'un gardien qui était à Villarreal, qui a été acheté par Chelsea. C'est miraculeux pour Strasbourg d'avoir un gardien de cette dimension.
Qui était numéro 2 à Chelsea la dernière.
Et on parle du successeur de Kasper Schmeichel dans le but du Danemark. Quand
et à la relance, il est sur le premier but. Hein, c'est lui qui fait
la longue
transversale sur Nanasi, qui impulse déjà le mouvement de un mouvement de grande qualité, hein, technique, intelligence de jeu. C'est vrai qu'il a fait un gros match. Voilà. C'est vrai que c'est paradoxal parce que Jorgensen fait partie des top 3 des joueurs sur la rencontre.
On parle de Yacine quand même, qui marque un doublé.
Exactement. Mais moi, pendant un long moment, je me suis dit Strasbourg est mal payé sur cette rencontre par rapport à ce qu'il produisait en termes d'intention. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'impression collective. Individuellement, on peut parler de Jesse Mathieu, au passage, qui, on l'a vu l'année dernière quand il arrive de Dunkerque en janvier. Il apprivoise un peu la Ligue 1 parce que c'est un joueur frêle, c'est un joueur qui fait penser à Riyad Mahrez, moi, quand il a débuté. C'est-à-dire un joueur d'évitement, un joueur où la balle est collée. Beaucoup plus petit, mais la balle, elle est collée et il est capable de faire des très belles choses en marquant, en centrant, en faisant marquer. Mais sur la première mi-temps, j'ai essayé de machine, je me dis, tu vois, un peu comme l'année dernière, physiquement, est-ce que ça va passer? Oui, il y a des belles choses, mais. Ça manque d'action tranchante, ça manque de statistiques. Et deuxième mi-temps, le mec, il met doublé. Et même sur le but refusé d'Ortega cheveu, c'est lui qui est au centre sur l'avant-dernière passe, qui fait le décalage sur Nanasi. Et c'est vrai qu'il a fait une deuxième mi-temps où il envoie sa carte de visite à la Ligue 1.
Et il met deux buts pied droit alors qu'il est gaucher, non?
Il met deux buts pied droit. Il est même surpris de mettre le doublé. Et ça doit, on parlait d'Ethan Mbappé hier, ça fait partie de ces nouveaux joueurs jeunes qui doivent. prendre une dimension énorme en Ligue 1, et je pense que ce match-là va lui donner beaucoup beaucoup de confiance. C'est important d'avoir cette première image forte dans cette Ligue 1 pour se désinhiber complètement. Et moi, je pense que dans cette équipe de Strasbourg, ça peut être un match déclic pour lui, comme il en a eu en Ligue 2. Où faut rappeler son histoire. Il vient des U19 de Marignane. Il arrive à la base. Il doit pas jouer tout de suite avec Dunkerque. Luis Castro le lance et derrière il fait une saison incroyable. Donc pourquoi pas le même storytelling pour le Marocain à Strasbourg.
Son premier but est incroyable. On parlait justement de la roulette et de la passe pied gauche d'Ethan Mbappé hier. C'était exactement la même chose. Il reçoit ce ballon. Normalement, il doit naturellement le contrôler pied droit. Il fait une roulette pied gauche pour l'orienter sur son pied droit. Il est exceptionnel dans l'exécution. Honnêtement, c'est du très très haut niveau. Moi, j'ai envie de parler surtout du quatuor offensif parce qu'en effet, Yacine a été très bon. J'avais envie de mettre en avant Jacobo Ortega. D'où il sort, je sais pas, je ne connaissais pas.
C'est Real Madrid B.
Exceptionnel, honnêtement, c'est un Panicelli 2.0. Je l'ai trouvé très intéressant, même dans son apport avec le ballon, où est-ce qu'il n'avait pas peur de venir décrocher. Honnêtement, son association avec Giovanni Reina, que je connais bien, parce que moi j'ai joué avec lui, je l'ai vu à ses débuts, parce qu'il a été formé à New York City Football Club avant de partir très tôt à Dortmund.
Je l'ai trouvé très bon,
qui est très très intelligent, c'est même très surprenant de le voir arriver à Strasbourg, mais j'ai trouvé son association avec Ortega intéressante. Il faut savoir que il va falloir aussi se poser des questions parce qu'en règle générale, Reina, la problématique qu'il a, c'est la régularité sur toute une saison. Oui. C'est un très bon joueur en sortie de banc. C'est vrai qu'à Nottingham Forest ou à Mönchengladbach, c'était un peu plus compliqué. C'est un joueur qui rarement joue une saison pleine. Donc j'attends de voir comment il va justement réagir à une.
Reina à 100%, on va dire les termes.
Bien sûr,
Reina, tu l'as vu
sur son arrivée. Tu l'as vu sur son arrivée à Dortmund, sa première saison, qui est juste incroyable. Et même où est-ce que ça devenait un peu compliqué en équipe nationale, il a montré sur cette Coupe du Monde qu'il avait encore le niveau en effet du top Ligue 1. Et puis Nanasi qui a fait un très bon match, le premier but il est exceptionnel, c'est la première touche qu'il a sur le long dégagement de Jorgensen. Donc
lui aussi il fait partie de ces joueurs irréguliers. Est-ce que lui aussi cette saison,
et c'est la problématique de Strasbourg de quand tu fais le bilan après le match de l'Olympique de Marseille. Alors certes il y avait beaucoup d'absences, c'était pas du tout le même 11 titulaire, mais c'est toujours un peu difficile avec Strasbourg de prévoir et de prédire ce qui va se passer.
Il va falloir attendre la fin du mercato, et ça va encore tellement
la culture de l'instant me fait dire qu'aujourd'hui maintenant Strasbourg, ils ont fait un match incroyable et j'ai envie de les compter parmi peut-être les outsiders. Tu sais, une équipe qui va finir entre la 5e et la 6e place, mais t'es jamais à l'abri que ça éclate.
4-5 matchs comme ça de ce niveau.
Et c'est toujours le problème avec la jeunesse et l'inexpérience de Strasbourg.
Et puis il y a des joueurs qui vont progresser, des joueurs qui vont prendre une nouvelle dimension. J'aime beaucoup aussi Aneyo, que je trouvais frêle l'année dernière.
Moi j'ai grosse réserve sur Aneyo.
Moi j'ai trouvé que son entrée a été très bonne et je pense que lui aussi, comme Jessim Yacine, va prendre beaucoup plus d'assurance par rapport à l'année dernière, même si l'année dernière j'avais les mêmes doutes que toi. Mais je pense que la deuxième saison va être meilleure.
Petit Diop par contre sympa milieu de terrain.
Petit Diop de Toulouse que déjà
même
c'est,
tout ça,
c'est lui qui avait fait le signe Joule après la séance de tir au but quand il était embrouillé avec Balerdi et qui avait fait un gros match au match de Coupe de France au Vélodrome. Il a fait une super saison l'année dernière avec Caceres au milieu de terrain. Et puis il y a le petit qui a été acheté 20 millions d'euros.
Koulibaly qui vient d'arriver du Werder Bremen, qui va sans doute jouer beaucoup plus
et qui lui aussi va je pense émerger dans cette équipe. Donc à voir.
Laurent, merci d'être venu au centre de 16.
C'est important pour le coach aussi parce qu'avec la pression qu'il avait fait et le 4-0 qu'ils ont pris la semaine dernière, il fallait quand même rassurer tout le monde.
Avant le mercato, on dit un mot quand même de l'équipe qui a créé la plus grosse sensation du soir, hormis le Havre qui prend donc un point à Lyon. Angers gagne à Auxerre 3-1 quand même.
Ouais, franchement bravo Angers, avec encore une fois des joueurs qui se relancent là-bas. Moi j'aime beaucoup El Ouazani qui était à Guingamp, qui est reparti à Braga et qui revient à Angers.
Très belle image d'ailleurs, il vient célébrer je pense avec son papa
mais c'est un joueur qui à Guingamp déjà était un vrai bon joueur. Il a été champion U23 avec le Maroc. Le but de Van den Boomen incroyable. On en a vu un vrai match de Bundesliga. On a vu un match de Bundesliga ping pong,
c'était très ouvert,
un vrai match de boxe. Les deux équipes sont rendues coup pour coup, sauf que Angers a été beaucoup plus efficace et beaucoup plus en maîtrise de ce jeu-là. Auxerre a eu des occasions à un partout notamment, mais le 2-1, le troisième but, le fameux troisième but de Roland Courbis, paix à son âme, a été très important ce soir. Et bravo Angers. Moi encore une fois je suis fasciné par ce club, ce qu'ils arrivent à faire. On parlait de Le Havre tout à l'heure, faut pas parler que du Havre. Angers c'est incroyable, c'est
avec des moyens limités.
Comment ils ont fait Van den Boomen, comment ils font ces mecs, comment ils arrivent à faire ces mecs-là, etc.
C'est un projet sportif. intéressant.
Sbahi qui était après Grenoble, qui était complètement mort pour le football, ils le remettent dans le circuit. Non, franchement, je.
Alors par contre, juste une petite aparté sur Auxerre. J'avais parlé de Will Steele. Je pense que Will Steele, sincèrement, sera le premier coach à dégager cette année en Ligue 1. Ce que j'ai vu, c'était très intéressant.
Après,
en effet,
c'est le choix de Ventier. Donc Ventier, vu qu'il a sorti Pélissier, je pense qu'il va quand même lui donner un peu de temps.
J'imagine Auxerre en danger cette saison en Ligue 1. Par contre, là où je te rejoins, c'est vrai qu'on a critiqué ces équipes-là pour parfois être un peu défensives. Là, que ce soit Auxerre ou Angers, on a quand même vu les équipes porter
l'avant.
Ils ont
des grosses occasions.
On a vu un beau spectacle.
Il a une occasion énorme.
C'est dans la structure. C'est dans la structure défensive auxerrois. Moi, vraiment, je pense qu'il va y avoir des carences et ça risque d'être compliqué pour Auxerre cette saison.
Avant de parler du mercato de l'OM, juste en bref, vous dire que Lens s'apprêterait à faire signer l'ailier franco-congolais Junior Kadil en provenance du Servette, où il avait brillé lors de la dernière demi-saison. Guéladoué, on l'a dit, sur le départ vers le Bayer Leverkusen pour environ 40 millions d'euros. Crystal Palace discutera avec Lyon pour Robin Kluivert. On parle d'un transfert à 20 millions d'euros.
Ça, je comprends pas.
L'OL qui pourrait aussi laisser partir Chalet Tatsar à Sassuolo, qui serait même d'accord avec Sassuolo pour laisser partir, mais bon, ça c'était attendu.
Kluivert à Crystal Palace.
Kroussassoul et l'ASM ont trouvé un accord pour 8 millions d'euros pour le milieu mexicain Eric Lira, mais il faut d'abord que Monaco se sépare d'un joueur extra-communautaire.
J'avais beaucoup aimé la Coupe du Monde, Eric Lira.
Et puis Leao donc quitte le Milan, il va signer à Galatasaray. Alvarez aurait dit non à Mikel Arteta. Julian Alvarez aurait dit non, Mikel Arteta. Et puis
c'est surtout l'Atlético. Est-ce que l'Atlético a dit oui ou non déjà?
Non, parce que l'Atlético serait prêt à laisser partir, mais pas en Espagne.
D'accord, ok. Voilà.
Et peut-être que Manchester City reviendrait dans la course.
Il a dit non à Arsenal.
Il aurait dit non à Arsenal, d'après The Athletic.
J'ai vu qu'Osimhen va rester aussi à Galatasaray.
Le mercato, je voulais qu'on écoute Bruno Genesio. Kylian, tu peux me dire si on l'a, le sonore de Bruno Genesio. On l'a, on va écouter Bruno Genesio en conférence de presse à la veille de Monaco-Marseille. Il a parlé du mercato marseillais. Écoutez-le.
On est dans une situation très périlleuse et très difficile parce qu'on doit à la fois équilibrer une situation financière mais aussi bâtir une équipe compétitive. Remplir les deux conditions, c'est pas facile, loin de là. Oui, je savais qu'il y avait des difficultés. À ce point-là, j'imaginais pas qu'au 29 août, on en soit à avoir zéro recrue et à vendre un de nos meilleurs joueurs à ce moment-là. Mais c'est comme ça. On doit s'adapter à beaucoup de choses sur le terrain, en dehors du terrain aussi maintenant que lorsqu'on est entraîneur. Voilà.
Paixão est blessé, il n'est pas dans le groupe de demain. Balerdi est donc à Rome pour signer en prêt payant avec une option d'achat qui serait obligatoire, mais on est en train de négocier entre l'OM et la Roma pour savoir combien de matchs doit disputer Balerdi.
Le deal, il est terrible quand même.
C'est-à-dire
si c'est 60% des matchs Balerdi, parce que Balerdi, faut rappeler, mais à la Roma, Ndika, il est indéboulonnable. Mancini, c'est le fils du coach. Hermoso, c'est un très bon joueur dans une défense à 3. Et ils ont mis 20 millions ou 18 millions sur un joueur de Wolfsburg, un grec, cet été. Donc Balerdi, si c'est 60% des minutes de l'AS Roma, il va falloir qu'il le fasse, qu'il se blesse pas, parce que sinon en fait les 14 millions et 15 millions tu les as pas quoi. C'est-à-dire que moi je répète ce que j'ai dit hier, mais on parle quand même d'un international argentin, Timber international hollandais, Paixão international brésilien, c'est pas on parle pas de joueur de Ligue 2 quoi. C'est-à-dire avec toutes les limites que ces mecs ont,
tu veux dire que Marseille travaille mal pour les vendre?
Bah, il dégraisse et c'est compliqué.
Enfin, d'accord,
hein,
oui, c'est, ok, c'est la grande braderie, mais quand même il y a un moment on parle de joueurs qui ont je sais pas s'ils ont une cote. C'est exagéré de dire qu'ils ont une cote parce qu'on connaît la situation de ces joueurs là
une valeur marchande,
mais tu peux avoir pas avoir une option d'achat obligatoire en fait comme tout le monde sur ces types de joueurs là
ils sont tellement en panique.
Le message qu'on nous envoie c'est terrible. Et puis Balerdi, la fin elle est tragique quand même. Les sifflets contre l'Atlético de Madrid en prépa, mec veut se barrer de Marseille de cette manière. Vraiment. Et pourtant Balerdi, moi je l'ai beaucoup défendu, hein, et il y a eu des hauts et des bas. La fin, elle est quand même. Et puis sur Genesio, pour rebondir sur le son qu'on a entendu, bon, on savait que ça allait être très compliqué. Hein. Mais là, les déclarations de Greg Lorenzi et de Genesio là, sur les 48 dernières heures ne poussent pas à l'optimisme hein, sur la saison de.
Il y aura peut-être aucune recrue à l'OM cet été.
Moi, je veux pas. Il disait quoi Mbappé après un match du PSG? Arrêtez de cultiver la peur. C'est une expression comme ça. Je pense qu'il cultivait la peur. Mais si demain ça perd à Monaco et qu'il perd Paixão, Timber, Balerdi, il y a zéro mec, la semaine prochaine, on est sûr que Genesio.
Il a dit pas de démission, c'est pas d'actu... enfin pas de démission, c'est pas d'actualité.
C'est-à-dire qu'il va faire la... donc en fait Genesio, on lui avait dit que il allait faire l'Europa League et la Ligue des Champions avec Mahdi, Harit à droite et ou Abdallah. On lui avait dit ça avec Kondogbia qui est fait en cristal derrière et Aguirre qui est fait en cristal aussi. Non mais on lui avait dit ça. Il allait faire deux compétitions.
T'as vu le faciès de Lorenzi et Genesio. J'ai l'impression qu'ils ont pris 15 ans ou deux mois. Ouais, c'est compliqué de travailler à l'Olympique de Marseille.
C'est pas de leur faute, hein, évidemment.
Ça va être difficile, ça va être stressant, on va dire. Très stressant.
Ouais, compliqué.
La question, c'est de savoir si tu penses ou non que Genesio était au courant de la situation avant de signer à l'Olympique de Marseille, ou bien même Lorenzi. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est catastrophique pour l'Olympique de Marseille s'il devait perdre. Encore plus Pechao, tu vois. J'étais dur avec lui, mais c'est peut-être le meilleur Marseillais depuis le début de cette saison.
Il a joué blessé, nous a dit Genesio aujourd'hui en conférence de presse lors du premier match contre Strasbourg. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe demain. Pechao.
Il y a peut-être 40 bâtons. C'est une blessure. Je pense qu'il y avait peut-être eu un coup de téléphone en disant, les gars, si vous pouvez le mettre au congélateur comme une bonne glace Picard, ce sera très très bien quand même. Ce sera bien.
On va conclure là-dessus. C'est l'été des glaces avec Walid, évidemment. Merci Walid.